Serge Billet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez sorti, on ne va pas dire un opus, mais on va dire vous avez sorti un nouveau livre. C'est votre combien ?
Celui-là, c'est le 20e.
20e livre. Sur lequel vous parlez de vos années au Foie de Boigny. Pourquoi aussi tard ?
Ça, c'est une très bonne question. J'ai fait la dernière interview du Foie de Boigny de son vivant en juillet 1993. Et quand j'ai fini l'interview, quelques semaines après, je suis parti outre-mer. J'ai travaillé en Guyane un an, où j'ai présenté le journal, et après je suis arrivé à la Martinique. Et c'était comme une espèce de page que je tournais entre toute cette partie-là avant et la partie où Foie de Boigny qui a marqué la rupture. Et quelques mois après, donc l'interview où Foie de Boigny est mort, et donc je suis passé à autre chose. Et paradoxalement, c'était une autre rencontre qui était importante pour moi, c'est la rencontre avec Aimé Césaire, que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer un tout petit peu et de partager un certain nombre de choses dans son vécu, surtout quand il a pris sa retraite politique. Et il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu envie d'écrire un livre sur Césaire pour dire un certain nombre de choses que j'avais pu observer. Mais je ne me sentais pas légitime pour ça. Et je me suis dit, d'autres gens en Martinique sont plus légitimes que moi. Et malgré tout, je crois qu'il y a un moment donné où j'ai franchi le cap. Parce que tu te réveilles un matin et puis tu te dis, ben, on y va. Et quand je l'ai fait, j'ai été surpris par le succès, le bon accueil du livre. Je me suis dit, ben, finalement, moi qui ne me pensais pas légitime, j'ai quand même apporté certains éléments qui ont permis à des personnes, y compris des personnes qui connaissaient bien Césaire, de pouvoir l'appréhender différemment. Et le succès du livre sur Césaire m'a fait tilt aussi pour Foie de Boigny. Je me suis dit, mais moi qui ne me sentais pas non plus légitime, parce que je n'ai qu'une approche de lui qui est parcellaire, mais il y a peut-être des choses que je pourrais dire, que je pourrais apporter dans ce parcours de ce monsieur, qui donnerait un éclairage différent donc à un certain nombre de personnes qui pensent aussi le connaître. Et naturellement, quand j'ai sorti le livre, effectivement, il y a quelques mois donc en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens étaient surpris de découvrir un certain nombre de choses qu'ils pensaient connaître de lui et qu'ils ne connaissaient pas. Et donc ça a eu un très gros succès. Et depuis la sortie aussi donc, aux Antilles, Martinique, Guadeloupe et Guyane, des gens donc, découvrent aussi un aspect de sa vie, notamment dans son lien avec la diaspora, qu'ils ne connaissaient pas.
Il pourrait y avoir des gens qui ne savent pas qui serait Foie de Boigny. Vous pouvez nous préciser qui il est ?
Foie de Boigny était le président de la Côte d'Ivoire de 1960, date de l'accession à l'indépendance, à 1993, date de sa mort, le 7 décembre 1993 officiellement. Mais avant cela, il a eu, en tant que personnage politique, un parcours très, très important. Moi, c'est le parcours, c'est la partie de sa vie que je préfère, où il s'est battu contre le colonialisme. Et il s'est battu avec justement l'aide de gens qui étaient avec lui en Côte d'Ivoire, mais aussi avec l'aide de tous ceux qui se battaient contre le colonialisme en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane donc avec l'une des têtes pensantes donc de la négritude, en Martinique pareil, et en Guadeloupe avec des politiciens et des politiciennes guadeloupéennes. Et donc ça, c'était quelque chose d'intéressant aussi à mettre en valeur. Mais à l'origine, Foie de Boigny est né sur une famille de riches planteurs. Dans cette famille, il a été envoyé donc ensuite dans l'une des meilleures écoles des colonies de l'époque, hein, que l'école William Ponty donc à Dakar. Il a l'école de médecine pardon qu'il a fait donc à Dakar. Et puis ensuite, il est devenu lui-même quand à son retour, il est devenu médecin. Il est devenu ensuite président du syndicat des planteurs. Et c'est à 45, il a pu donc se présenter aux élections lorsqu'il y a eu les élections qui permettaient donc de faire accéder des originaires de colonies donc à l'Assemblée constituante, et donc c'était son cas pour lui, c'était le cas de Césaire aussi et d'autres députés ultramarins.
Oui, on observe que dans votre ouvrage, vous avez tenu à lui donner toute sa dimension à la fois internationale, mais également le poids qu'a eu cet homme dans son pays. Comment vous avez pu alimenter toute la partie, notamment africaine, dans la mesure où, pendant cette période, bien souvent, vous n'étiez pas là vous-même, quoi.
C'est vrai, mais j'ai une chance extraordinaire que j'ai découvert au moment où je faisais ce livre, c'est d'avoir réalisé que ma famille avait un lien, mais dans plein de domaines, avec Foie de Boigny. Que ce soit mon père, qui a travaillé à la télévision, qui était l'un des pionniers de la télévision en Côte d'Ivoire, et qui a eu à subir, entre guillemets, le principe de Fouet de Boigny qui consistait à contrôler la télévision. Que ce soit ma mère, qui était donc parentée à l'un des plus grands poètes ivoiriens, Bernard Dadier, qui est mort récemment, et qui lui aussi était parenté à Fouet de Boigny. Et mon père aussi, qui était ami d'enfance avec, le futur président Bédier, qui était le très proche de Fouet de Boigny. Et mon grand-père par alliance, le père de ma belle-mère, qui était l'un des héros donc, de l'indépendance, et qui est mort donc, à la suite d'un accident de voiture, mais qui était un des compagnons de lutte d'Aimé Césaire de Fouet de Boigny. Et donc c'est comme ça qu'en regroupant toutes ces informations familiales, qui sont souvent même la base de tout ce qu'on peut avoir, donc avec les témoignages que j'ai recueillis de ma famille, de mon père, de ma mère et de beaucoup de gens, plus mes propres connaissances, plus ce que je savais moi-même de Fouet de Boigny, c'est comme ça que j'ai pu reconstituer son parcours et justement apporter des éléments que d'autres personnes ne connaissaient pas.
Vous avez fait aussi un passage par la Guadeloupe, qui était, selon vous, une partie importante, même si je trouve qu'à un moment donné, vous nous baladez tellement qu'on en finit presque d'oublier l'histoire de Fouet de Boigny. Mais pourquoi vous avez tant insisté sur son lien avec cette femme guadeloupéenne?
Parce que justement, on ne le connaissait pas. Ou en tout cas, très peu de gens connaissaient cette histoire-là. Que Fouet de Boigny, quand il arrive à Paris et qu'il siège au groupe communiste avec Césaire et Gertie Archimède, qui est une femme qui était avocate et qui a été élue députée également, quand il arrive à Paris, il tombe amoureux de cette femme. Donc à partir de là, ça change tout. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas que si cette femme avait dit oui quand Fouet de Boigny a demandé à l'épouser, c'est peut-être l'histoire de la Côte d'Ivoire et peut-être même de l'Afrique de l'Ouest et peut-être au-delà même qui aurait été changée, puisque elle était féministe, elle était communiste, mais dure, pure et dure, et avocate. Et donc elle aurait peut-être quelque part apporté des choses essentielles pour les droits des femmes au moment de l'indépendance, ou peut-être aussi pour le droit des ouvriers, ou bien pour les lois sociales. Donc j'ai trouvé que c'était important justement de marquer cette histoire qu'on ne connaissait pas sur cet homme qui tombe amoureux de cette femme.
Et vous avez su ça comment?
Moi je l'ai su par hasard, par le neveu de Gertie Archimède. Voilà, Alain Foy, qui un jour, dans un blog qu'il tenait, a mis juste une ligne pour dire, là ça m'a fait tilt, et à partir de là, je suis, comme tout journaliste, j'ai commencé donc à chercher, je l'ai d'abord interrogé, je suis ensuite allé interroger donc une nièce de Gertie Archimède, après j'ai été voir une parlementaire qui était au courant de cette affaire, en l'occurrence Lucette Michaud-Chauvry, et donc j'ai reconstitué comme ça toute l'histoire, et même mieux, j'ai retrouvé à Abidjan une maison que les gens ne savaient plus qu'elle existait. C'est la maison où Fouet de Boigny donc, a fait venir Gertie Archimède, où elle a dormi, donc à Abidjan, donc à cette époque. Et donc là, ça m'a permis de reconstituer toute l'histoire.
Est-ce que c'est la partie roman d'une histoire vraie?
Ah non, non, tout est vrai. Tout est vrai, je n'ai rien inventé, je n'ai rien cherché à ajouter, et en plus, j'ai lu les mémoires de Gertie Archimède où elle parle de son passage dans cette maison, dont les gens avaient oublié la trace, et où elle parle aussi de tout ce qu'elle a pu faire en Côte d'Ivoire lorsqu'elle est partie défendre les partisans de Fouet de Boigny qui avaient été emprisonnés, y compris mon oncle.
Bon. Alors, Serge Billet, vous avez une production, on a dit, très importante. Il y a tellement de choses à dire avec vous et on va prendre le temps de les dire ce matin puisque nous avons pris ce rendez-vous pour essayer de mieux vous connaître. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi vous sortez aujourd'hui ce film, c'est peut-être prémonitoire, pourquoi vous sortez aujourd'hui ce livre en Martinique, quand on sait la difficulté que les Martiniquais ont eux-mêmes à comprendre l'histoire africaine.
Ça c'est une très bonne question. Et ça me renvoie à quelque chose que j'avais fait en Martinique il y a à peu près 10-15 ans. J'avais créé une émission qui s'appelait Jour d'Afrique, qui était diffusée sur Martinique Première, en tout cas RFO à l'époque. Et paradoxalement, qui avait eu un très gros succès. C'est-à-dire qu'on dit souvent, les gens ne s'intéressent pas à l'Afrique, C'est vrai, il y a des Martiniquais qui ne s'intéressent pas à l'Afrique, et puis je le respecte. Il y a même des gens qui disent qu'ils n'ont aucun lien avec l'Afrique. Moi, je respecte tout. Mais il y a quand même, dans ce pays, de la même façon que des gens s'intéressent à l'Inde, parce qu'ils se sentent d'origine indienne, ou bien que d'autres s'intéressent à d'autres pays, il y a des gens qui s'intéressent à l'Afrique. Et donc, cette émission avait eu un très gros succès. Et quand on l'avait arrêtée pour des raisons budgétaires, il y a eu des gens qui s'étaient émus de cela. Et puis, je me souviens aussi qu'en 1995, j'avais organisé des échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et la Martinique, avec des artistes ivoiriens qui venaient ici, des artistes martiniquais qui partaient là-bas. Il y avait même organisé trois charters directs qui étaient partis donc sur la Côte d'Ivoire et qui avaient permis à des Martiniquais d'aller. Il y avait eu un intérêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt pour certains. Voilà, donc c'est pour ces personnes-là qui, en Martinique, s'intéressent à l'Afrique. C'est pas obligé d'être tout le monde, mais pour ces personnes-là qui s'intéressent à ça, je me suis dit, ça vaut le coup peut-être aussi de partager cette expérience. C'est vrai qu'à l'origine, c'est plus un livre qui intéresse les Africains, c'est peut-être pour ça que ça explique son succès là-bas. Mais après tout, pourquoi est-ce que ne pas imaginer que des gens d'ici, qui ont une approche de l'Afrique qui est très forte, ou bien qui ont envie de connaître, puissent aussi à travers ce livre-là découvrir quelque chose qu'ils ignoraient. Et voilà, moi je vois bien que les réactions que je lis, qu'il y a des gens qui se disent « tiens, mais ça nous intéresse, voilà. On n'en savait pas plus, on aimerait bien en savoir plus ». Mais si on devait s'arrêter au fait que, il y a quelquefois des réactions de « ça ne m'intéresse pas » ou bien des réactions de rejet, on ne ferait jamais rien. Il faut juste proposer pour les gens que ça pourrait intéresser.
Très bien. Serge Billet, si on devait rentrer davantage dans ce livre, on dirait tout. Et je crois qu'il faut quand même laisser une part de mystère pour que les uns et les autres aient envie de le découvrir. En tout cas, moi, je l'ai lu avec beaucoup d'appétit. Et je conseille à nos amis martiniquais, lorsqu'ils auront l'occasion, je suppose que vous serez en dédicace, de pouvoir le faire. Ce que j'aimerais surtout, c'est profiter de l'occasion que nous avons aujourd'hui pour parler aussi de vos activités, parce que vous faites tellement de choses qu'on se demande à quel moment vous dormez.
Ah, ça c'est une bonne question. Disons que je dors entre 3 et 4 heures par nuit, ça me suffit largement, mais c'est vrai que... Je me suis réveillé tardivement à l'envie de faire des choses, parce que j'ai eu une vie comme tout le monde, très classique, l'école, la famille, le travail, les loisirs. Et puis en 93, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé peut-être aussi ma vie. C'est que je suis arrivé en Guyane pour présenter le journal, et je me suis retrouvé sur le fleuve Maroni, et là j'ai fait la rencontre des Bonis. C'était vraiment quelque chose qui était essentiel pour moi, découvrir qu'il y avait des descendants d'esclaves et de nègres marrons, descendants de nègres marrons, qui avaient gardé.
Pour prendre une expression désagréable.
Bon, je ne dirais pas ça, mais bon, qui étaient là et qui. Et donc ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Ce qui m'avait le plus marqué, je me dis, mais. Parce que je me souviens qu'à un moment donné, je vais voir le capitaine du village à Patou et il me dit, mais. Serge, c'est comment en Afrique? Est-ce qu'il y a la neige là-bas? Et ça m'avait fait de la peine, parce que je me suis dit, il y a une telle méconnaissance de ces gens, du continent d'où ils viennent, et puis une telle méconnaissance des Africains, de cette diaspora, que je me suis dit, moi je vais m'attacher à essayer de faire ce pont-là, d'écrire des choses qui permettent aux uns de mieux connaître les autres, et aux autres de mieux connaître les uns, et puis donc d'établir un pont. Voilà, donc c'est à partir de là que tout a changé, tout a basculé, et donc tout ce que je fais depuis 1993 est parti des Bonis. Donc j'estime que j'ai découvert un peu tard ce que je pourrais appeler une vocation, et peut-être que dans cette envie de vouloir, non pas rattraper les choses, parce qu'on ne rattrape jamais le temps perdu, mais de pouvoir faire beaucoup de choses pour pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir peut-être participer à cet échange et à ce pont, j'en fais beaucoup, et je fais pour la Guyane, je fais pour la Guadeloupe, je fais pour la Martinique, je fais aussi pour la Côte d'Ivoire, je fais pour d'autres pays. Pour moi, c'est une passion, et donc cette passion-là, quand on fait les choses avec passion, il n'y a pas le temps pour ça, quoi.
D'accord. Alors, à ce titre, vous organisez très bientôt, je crois que vous avez toujours l'association Aquaba.
Non, on avait l'association Aquaba, qui malheureusement a... Vous savez, il y a des problèmes d'argent. Quand on essaye de monter ce genre d'opération, ce n'était pas facile. Et donc aujourd'hui, j'ai été nommé délégué par le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire. J'ai été nommé l'an dernier délégué pour la route des esclaves. Et à ce titre-là, j'ai organisé le retour des bonnies, le deuxième retour des bonnies. J'en avais fait un déjà en 94, où j'avais permis à des bonnies de rentrer, de retourner en Côte d'Ivoire, l'un des pays d'où étaient originaires leurs ancêtres. Donc il y avait la Côte d'Ivoire, à l'époque il y avait le Dahomey, il y avait le Ghana, il y avait l'Angola, il y avait le Cameroun, il y avait le Congo. Et puis donc là, ils sont rentrés en 94 avec moi, et puis 25 ans après, organiser le deuxième retour, et cette fois-ci, je me suis battu pour que la Côte d'Ivoire puisse
s'impliquer
et tout prendre en charge. Alors, comme j'avais été nommé délégué donc, pour la route des esclaves, j'ai dit voilà, c'est la condition que je pose. Et donc voilà. Et donc, comme j'ai été nommé pour 2 ans, mon mandat finit en 2020, je me suis dit, après avoir vu l'écho, le succès du retour des bonnies,
à la fois en Guyane, mais aussi en Côte d'Ivoire.
Oui, succès phénoménal. Et donc, quand j'ai vu comment aussi ça intéressait beaucoup de Martiniquais qui m'ont dit, on a suivi ça sur Internet, quand est-ce que vous refaites quelque chose avec nous ? Je me suis dit, bon, mon mandat finit l'année prochaine, pourquoi ne pas essayer de refaire ce qu'on a fait il y a 25 ans, une espèce d'échange, permettre à des Martiniquais de partir. Et donc j'ai contacté une grande agence de voyage, malheureusement j'ai pas le droit de faire de la publicité, donc je ne peux pas dire son nom.
Non, mais enfin, peut-être sur les autres antennes, mais chez nous, vous pouvez dire de qui il s'agit.
Non, mais moi, je suis journaliste, donc je ne le dis pas. Les gens qui se sont inscrits sur le voyage recevront donc un courrier de cette agence de voyage. Donc j'ai demandé à l'agence de voyage, j'ai dit, moi je veux bien lancer le projet, à condition que vous preniez ça en main. Et donc l'agence de voyage a accepté de prendre le projet en main, et donc ce sera donc à Pâques 2020, des Martiniquais pourront partir en vol direct sur la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, donc certains pourront partir au Sénégal, au Cameroun, en tout cas chacun.
On pourra éclater.
Ouais, chacun fait ce qu'il veut. On peut partir. Il y a des gens qui veulent partir à Dakar et partir à Dakar. Et donc je suis surpris parce que ça a eu un très gros succès, en tout cas là, en si peu de temps, en moins d'un mois, on a déjà enregistré 270 personnes. C'est pour ça que je dis que cette envie d'Afrique, elle n'est pas si. Voilà, il y a des gens qui en ont envie. D'autant n'ont pas envie, mais ceux qui en ont envie, il faut au moins faire quelque chose pour eux.
C'est ça. Alors, il y a donc toute cette partie retour en Afrique. Ça nous permet aussi de parler de la question identitaire à la Martinique. On dirait qu'on n'a jamais autant, on ne s'est jamais autant posé de questions sur la question identitaire. Pour vous qui revendiquez votre africanité, mais pas au sens d'afro-descendance, mais d'africanité directe, pour vous qui avez vécu à côté de Césaire, avec son histoire, la négritude, en tout cas l'adaptation qu'il fait de cette filiation, comment vous vivez toute cette synthèse et qu'est-ce que vous avez à dire à ce titre ?
Moi déjà, je suis déjà, quelquefois je dis même, je suis déjà quelquefois même plus créole que certains créoles, parce que j'assume toutes les identités qu'il y a en moi. Mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, était un colon, un blanc. Un Anglais. Mes parents sont issus d'un peuple qui venait du Ghana. J'ai moi-même donc hérité de tout ça, et en plus j'ai vécu une partie de ma vie en Côte d'Ivoire, une partie donc en France, où j'ai eu des parents adoptifs qui étaient français, blancs, voilà. Une partie de ma vie aussi en Allemagne, avec une mère...
À ce titre, vous parlez allemand ?
Oui, bien sûr, avec une mère allemande, Anita. Et puis, une partie... Voilà, donc j'ai accepté tous ces mélanges-là qu'il y a en moi, du noir, du blanc et des différentes origines, pays. Il n'en reste pas moins que l'Afrique reste ma boussole, même si je suis dans cette ouverture identitaire très, très, très forte. Donc, je comprends le débat qu'il peut y avoir aussi en Martinique ou entre des gens qui ne savent pas forcément où se situer. Entre Césaire parlait à propos de l'Afrique, il disait que les Martiniquais acceptaient tout, sauf peut-être la part maudite. C'est lui qui disait ça, la part maudite qui est la part africaine, et que c'est ça le plus difficile. Moi, personnellement, pour moi, c'est une part que je trouve extraordinaire parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses. Et on peut aussi, dans ce débat-là, déclamer, se poser toutes les questions, y compris celles qui touchent à l'esclavage, sur comment est-ce que les Africains se sont comportés. Moi, j'ai aucun tabou par rapport à ça. Mais je pense que c'est à chacun de savoir comment est-ce qu'il assume son héritage. Il n'y a pas une déclamation où je vais venir, où je vais dire « il faut que tous les Antillais soient ceci ou cela ». Il y a des gens qui se sentent plus proches de quelque chose de local, d'autres qui sont plus proches de quelque chose de parisien, d'autres qui sont plus proches de quelque chose d'africain. Chacun se définit. Après, maintenant, comment est-ce qu'on trouve ensemble une envie d'être Martiniquais, de travailler pour ce pays, de vivre ensemble. Ça, c'est un autre débat, mais je crois qu'on ne devrait pas contester à chacun le fait de se sentir plus indien, ou bien plus européen, ou bien plus africain. On ne devrait pas contester ça. Chacun a le droit de cela. Après, il faut trouver une commune mesure pour que tout le monde puisse... Mais souvent, j'ai l'impression quand même, si je ne me trompe pas, il y a quand même plus de choses qui rassemblent les Martiniquais que de choses qui les divisent. Mais malheureusement, on met toujours plus l'accent sur ce qui divise. Et ce qui rassemble me semble beaucoup plus fort. Et on le voit quand il y a des moments de solidarité donc, à exprimer, y compris par rapport à la Martinique ou bien par rapport à l'étranger, ça ne pose jamais de problème. Donc ça veut dire que nous avons une gestuelle qui consiste à dire « nous nous retrouvons entre nous ». Voilà. Mais je crois que sur l'identité, on n'a pas à poser quelque chose qui consisterait à dire « nous sommes comme ça et pas autrement ». Non, il y a des gens qui se sentent plus français, plus africains, ou bien plus indiens, et ça, ou plus chinois aussi. Et ça, il faut le respecter.
Vous avez parlé de créolité. Le mot m'étonne venant de vous.
Je n'ai pas dit créolité, j'ai dit créole. Créole, c'est-à-dire que je suis dans un pays qui a des termes qu'il emploie pour se définir. Le mot créole est un mot qu'on entend chez beaucoup de gens en Martinique. Je ne vais pas venir, moi, en employant le mot que j'ai toujours connu depuis que je suis gamin en Côte d'Ivoire, qui est le métissage. Voilà, on parle toujours de métis. Au début, quand je suis arrivé, que je disais métis, ça ne parlait pas aux gens. Voilà. Parce que, bon, le terme le plus couramment employé est le mot créole. Donc, j'accepte un mot que je trouve ici et je ne vais pas, moi, venir réinventer ce que des Martiniquais ont trouvé pour se définir eux-mêmes, même si... Certains, quelquefois, utilisent ce mot pour ne pas avoir envie de dire qu'ils sont noirs ou bien qu'ils sont ceci ou qu'ils sont cela. Mais ça, après, je veux dire, il appartient aux Martiniquais de savoir comment est-ce qu'ils se définissent. Voilà. Mais je n'ai pas, moi, à leur imposer un vocabulaire ou à snober un vocabulaire qu'ils ont choisi eux-mêmes.
Serge Billet, à quel moment vous utilisez le mot nègre ?
Moi, je suis de ceux qui utilisent le mot nègre dans l'acception de Césaire. Et c'est-à-dire ce mot auquel il a redonné toute sa noblesse, non pas le mot nègre tel qu'il a été utilisé pour pouvoir nous rabaisser, nous chosifier, nous nier notre condition humaine, mais je suis pour le mot nègre dans l'acception que Césaire a fait en lui redonnant toute sa place du nègre debout, du nègre qui retrouve toute sa place dans l'humanité. Donc moi, le mot nègre, aujourd'hui, ne me choque pas dans cette acception-là. Maintenant, on peut toujours naturellement considérer qu'il y a des gens qui l'emploient de façon péjorative ou bien de façon méprisante, mais tel que Césaire l'emploie, moi, ça ne me choque pas.
On va revenir à des questions d'actualité. Je rappelle qu'on se rencontre dans le cadre de la sortie de votre livre, qui parle de votre expérience de journaliste auprès de Fouad Boigny. Vous avez aussi un autre projet dont vous avez parlé, qui est la mise en place d'une comédie musicale. D'après ce que j'ai compris, les choses sont lancées avec une agence, avec une organisation. Vous en aviez déjà fait une, me semble-t-il. C'était Mandela, avec Soweto, ça s'appelait, avec une mise en scène qui était d'Aurélie Dalma, je crois. Et là, vous revenez et vous voulez mettre en avant Loulou. Votre histoire avec Loulou est assez incroyable d'ailleurs.
Oui, mais les gens ne la connaissent pas. Mais quand je suis arrivé à la Martinique, il s'est établi très très vite une relation fraternelle, je ne sais pas comment on peut dire, ou fraternelle, paternelle, avec Loulou Balaville et sa femme, et puis aussi ses enfants. Et j'allais donc le voir, et puis un jour il m'a dit... J'ai senti beaucoup de regrets chez lui. Il me disait qu'il n'avait plus l'opportunité et les moyens d'enregistrer à nouveau parce que la production commençait déjà donc à faiblir à cette époque-là. Et là, je me suis dit, on ne peut pas laisser un homme comme ça, d'une telle stature, partir. Quand il m'a montré tous ses cahiers avec des chansons qui étaient déjà écrites et puis tout ce qui était en projet, il dit, on ne peut pas le laisser partir comme ça, il faut au moins faire quelque chose. Et donc, j'ai cassé ma tirelire. Et puis, donc, on a enregistré la chanson « Tilucien » ensemble. Et donc, je reviens le voir après... une fois que le disque est sorti, pour lui présenter le disque et lui dire tu vois, on y est arrivé. Voilà, il était heureux, il était fier, sa femme aussi était très heureuse, c'était vraiment un moment magique. Et je le quitte le soir même, j'arrive à mon travail le lendemain Et vers 18h50, je crois qu'à peu près 18h45, on m'annonce que le loup est mort. Ça a été vraiment un choc parce que là, on avait l'occasion de pouvoir, comment dirais-je, rendre un homme heureux, d'avoir retrouvé justement la communication avec son peuple, pouvoir chanter, aller être invité à droite à gauche. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit que quoi, la vie est injuste. Et à ce moment-là, c'est là qu'il disparaît.
Et cette chanson, c'était laquelle ? C'est celle où il demandait de le balader dans la rue et exactement compagnie.
Ça. Exactement ça. Il parlait de.
Et vous aviez fait qu'un seul titre alors ?
Qu'un seul. Oui, mais déjà c'était beaucoup financièrement. Et il fallait payer le studio, il fallait payer voilà le pressage et tout. Et donc.
Il disait je crois manquerait mon dimanche, manquerait mon samedi. Le dimanche je fais le tour de la ville et puis moi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc voilà. Et donc. C'était, et puis, ça tombait comme une chanson prémonitoire. Et justement, il meurt, et c'est cette chanson-là qui devient le truc extraordinaire qui accompagne toutes les foules qui sont avec lui jusqu'à son enterrement.
Et dans la foulée, vous faites la réplique avec Gisèle Bacca.
Oui.
Vous allez voir ça, Loulou.
Oui, parce que moi, j'étais très choqué. Ça s'est passé, je crois que même, voilà, ça s'est passé quelques minutes avant le journal. Je crois que j'étais très mal pour faire le journal. Et ça m'a marqué pendant de longs mois. Et puis un soir, j'ai pris ma plume et j'ai écrit cette chanson, Loulou Bolavie, ma guitare et ma plume. Et j'ai écrit donc la chanson. Et j'ai appelé Gisèle, j'ai dit voilà, je te chante cette chanson. C'est vraiment mon hommage à Loulou parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et elle a trouvé ça beau et c'est comme ça qu'on l'a enregistré. Et moi, ça m'a aidé à passer le cap. Et puis 20 ans après, je me dis que c'est pas possible et c'est pas normal qu'on puisse oublier un tel homme. On le diffuse très peu, ou en tout cas quand on diffuse ses chansons comme La Sirène, on ne sait pas forcément que c'est lui. Et je me suis dit, avec son répertoire, pourquoi ne pas essayer de faire connaître son travail à la jeune génération, et puis aussi de faire plaisir aux anciens. Et donc, là, c'est pareil, je vais casser ma tirelire, voilà, pour faire déjà la bande-son. Voilà, avec un arrangeur dont j'attends la confirmation pour pouvoir donc travailler sur la bande son, pour pouvoir donc préparer déjà la bande son. Et une fois qu'on aura la bande son, on va commencer à démarcher des gens qui accepteraient de nous aider à monter le spectacle. Mais au moins déjà dans la première partie, moi je m'engage à faire la bande son.
D'accord. La mise en scène, vous savez pas encore de qui elle sera. Pour l'instant, on n'y est pas encore.
Pour l'instant, j'ai tout écrit. J'ai écrit tout le spectacle. Il est écrit.
Là, si vous avez donné à René Hall.
Non, c'est-à-dire que.
Vous savez pourquoi je vous demande ça ?
Je sais pourquoi.
Expliquez à nos auditeurs. Bon,
Ronnie Hall est celui qui a eu un rôle très important, d'origine américaine, qui a eu un rôle très important dans la constitution du groupe du ballet folklorique et puis dans la structuration de toutes les chorégraphies et tout ça. Il a eu un rôle très très important. Mais Ronnie Hall n'a pas de rôle dans le spectacle en tant que Ronnie Hall. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des répliques avec Ronnie Hall, puisqu'il y a beaucoup de personnages déjà. Et puis il faut créer une intrigue. Donc il y a une intrigue qui se passe entre deux ballets qui s'affrontent, hein, parce que c'est ça. Deux ballets qui s'affrontent, et puis donc les uns veulent empêcher les autres de gagner. Et il y a un rôle qui est dévolu aussi à deux animateurs radio qui sont très importants pour moi, qui ont eu un rôle très important. Il suffit que je dise que j'ai envie pour que leur nom m'échappe tout d'un coup. Albert Tissiré et puis RCI Mano. Donc le personnage s'appelle Mano Tissiré et donc qui va être le personnage aussi central en radio, qui va être celui qu'on va. Voilà. En tout cas, bon, je vais pas tout dévoiler sur les personnages. Et Ronnie Hall sera lui dans la mise en scène, où on verra toujours quelqu'un qui sera là, et on saura, ceux qui savent sauront que c'est lui, mais et donc il sera en filigrane, mais il ne sera pas dans un des personnages, parce qu'il a fallu mettre beaucoup de personnages pour créer à la fois une histoire d'amour, parce que une comédie musicale c'est une histoire d'amour, une histoire de rivalité aussi, voilà, entre deux groupes qui veulent, l'un qui veut donc gagner le fameux concours pour pouvoir donc avoir droit à jouer sur une croisière pendant plusieurs mois et donc pouvoir donc vivre de son art, et puis l'autre qui ne veut pas. Donc voilà, il y a toute une rivalité et tout ça est raconté dans l'histoire.
D'accord. La sortie est prévue pour quand ?
Moi, je souhaite très franchement qu'on le fasse pour le 20e anniversaire de la mort de Loulou Bolavie. C'est-à-dire qu'on se donne un an pour faire la bande-son, ensuite pour pouvoir chercher les moyens de pouvoir monter le spectacle et puis faire ça pour mars 2021 pour le 20e anniversaire de la mort de Loulou Bolavie.
Bon. Eh bien écoutez, Serge Billet, nous allons nous rencontrer d'ici là. Je vous remercie de d'avoir voulu répondre à notre micro. En tout cas, ça a été pour moi un grand plaisir. Vous savez que je vous suis régulièrement sur...
Oui, je suis très actif sur les réseaux sociaux parce que c'est la seule façon de se montrer tel qu'on est. Quand les gens vous voient à la télévision, ils ont toujours une image, voilà, qui est stéréotypée, voilà, qui vous voit donc de façon... on aime ou on n'aime pas, mais on ne sait pas de qui on aime ou on n'aime pas. Est-ce que c'est celui qui présente? Est-ce que c'est les reportages qui présentent? Voilà. Et là, sur les réseaux sociaux, en tout cas moi, sur Facebook, je suis moi-même. C'est-à-dire avec mes moments de joie, mes moments de tristesse, mes moments de coup de gueule, mes moments de rigolade. Voilà, voilà. Et ça, j'aime parce que c'est un contact direct avec les gens où il n'y a pas d'artifice. Et puis mes difficultés aussi, voilà, familiales, professionnelles. Voilà, on a tous les mêmes problèmes. Voilà. Mais au moins... Les gens ne vous voient pas à travers un filtre qu'est la télévision où ils peuvent se faire une mauvaise idée de vous, mais ils vous voient tel que vous êtes et là, ils vous apprécient ou vous apprécient pas.
Ce sera votre dernier mot. Merci Serge Billet et à très bientôt.
Merci.